L'Église de la Victoire du Québec vous présente un message de foi et de victoire par le pasteur Joel Spinks. Nous prions que vous recevrez la révélation qui vous permettra de découvrir et de saisir la vie abondante prévue par Dieu pour ses enfants.
Ça fait en tout cas, je vous encourage cette année de prendre une bonne décision puis de vous nourrir spirituellement avec des bonnes choses. Amen. Là, ce qu'on va faire, je vais inviter mon épouse, Mathilde, et puis on va même commencer l'enregistrement, pas mettre de pression, mais parce que... Ben, et puis, viens Mathilde. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste vous partager un petit peu ce que le Seigneur a déposé dans nos cœurs et puis qu'est-ce que le Seigneur a déposé dans le cœur de mon épouse pour l'année 2009.
Bonsoir. Je sors définitivement de mon confort. Comme vous savez, je ne parle pas souvent dans le micro. Mais j'aimerais vous saluer. J'aimerais vous souhaiter la bonne année à tout le monde. On est super bénis que vous soyez parmi nous. Je vais faire juste quelque chose avant là, de vous dire qu'est-ce que Dieu m'a parlé. Je voudrais juste en profiter pour, pendant que j'ai une... Et puis, j'aimerais d'abord honorer mes beaux-parents d'être avec nous autres. Parce que quand ils ont su qu'on voulait partir en église, eux autres, ils n'ont pas hésité deux secondes. Puis, je veux vous honorer, d'être avec nous autres. Vous êtes un exemple pour nous de patience, de persévérance et surtout d'amour. Vraiment, vous dégagez l'amour de Dieu, puis c'est vraiment communicateur, c'est contagieux. Puis pour ceux qui ne savent pas, c'est une grande année pour mon beau-père parce que ça fait 35 ans qu'il travaille pour les Postes Canada et il prend sa retraite à la fin du mois. Alors, je crois vraiment pour vous que ça va être une année où il va y avoir plein de réalisations, de plein de prophéties que vous attendez depuis des années. C'est ça, je crois vraiment que Dieu a des grandes choses en réserve pour vous. Puis je veux honorer mon mari, parce que... je veux t'honorer, chérie, parce que tu es un grand homme de Dieu. Je suis bénie d'être ta femme. Je veux juste vous dire que votre pasteur, c'est vraiment un homme de Dieu, puis qui vous apporte vraiment la parole que Dieu veut pour vous. Moi, je vis avec lui, puis il m'en parle toute la semaine, qu'est-ce qu'il va parler le dimanche d'après. Puis je peux vous dire, c'est vraiment mûri, c'est pas garoché, c'est pas du réchauffé, c'est vraiment la parole de l'heure que Dieu, il cherche la face de Dieu toute la semaine pour savoir qu'est-ce que Dieu veut vous dire à chacun de vous pour que vous alliez plus loin avec lui, pour que vous alliez à d'autres niveaux. Puis je peux vous dire, Pasteur Joël est vraiment super consacré, puis je suis vraiment bénie d'être à tes côtés, chérie, parce que... En tout cas, je peux vous dire qu'à chaque dimanche, c'est vraiment la parole que Dieu a pour vous parce qu'il a cherché sa face toute la semaine. Puis il se couche tard, puis il révise, puis là, quand il a fini, il prie, puis là, il change des affaires, puis là, il m'en parle. Puis je peux vous dire, c'est vraiment mûri, mûri, puis mûri. Puis vraiment, en tout cas, fait que je voulais vous dire ça, que c'est ça.
Tu vas faire pareil d'abord. Ben moi, je peux vous dire que j'ai été super béni. Puis je disais à mon épouse, puis là, je vous le dis à vous, que Dieu l'a créé juste pour moi. Parce que et c'est une femme parfaite pour moi. On dit ça, pour moi. Mais pour moi, elle est parfaite. Puis c'est ça. Puis vraiment, tout ce qu'on a fait dans le ministère, ça prend une femme comme la mienne. Parce que c'est pas toutes les femmes qui seraient prêtes à aller jusqu'au bout du pays, déménager en Alberta, puis faire tout ce qu'on a fait. Puis en tout cas, j'ai une super merveilleuse compagne de vie. C'est ma meilleure amie. Et puis, c'est une mère merveilleuse, super dévouée, qui se réveille dans le milieu de la nuit encore, même à 3 ans et demi, félicité, elle se réveille encore. Moi, je les entends pas, mes enfants. Ils peuvent crier, je les entends pas. Puis ma femme est une bonne mère pour ses enfants. Elle est une épouse merveilleuse, puis bien dévouée aussi. Elle fait plein de choses autour de la maison. Puis, mais juste sa présence, c'est un cadeau du ciel. Je suis bien béni de la voir.
T'es très éloquent, chérie. Plus que moi. Ben, qu'est-ce que je voulais vous dire, c'est que on a fêté tard, le 31, chez nos amis, les Wilkie, justement, à Montréal. Puis, j'ai pas pu dormir vraiment tard le matin. Fait que tout le monde dormait le 1er janvier. Fait que moi, je tournais en rond, j'ai dit, ben je vais me lever. Fait que j'ai dit, ben bonne affaire de lire sa Bible, première chose, le premier de l'an. Fait que, comme j'allais chercher ma Bible, c'est drôle, c'est comme Dieu m'a dit, va lire tel passage. Puis moi, je connais la parole, mais je connais pas tout par cœur. Fait que j'étais allée voir, puis Dieu avait une parole pour moi. Puis après ça, il m'a dit, va te lire telle affaire, là, c'était une parole pour d'autres choses. Puis la troisième chose qu'il m'a dit, il a dit, va lire Ésaïe 54, puis ça, c'est pour l'Église. Fait que là, je me mets à lire, puis vraiment, c'était vraiment pour l'Église, j'en revenais pas. Fait que je veux vous dire qu'est-ce que Dieu m'a donné pour l'Église en 2009. C'est deux versets dans Ésaïe 54, versets 2 et 3. Puis ça donnait que je lisais dans français courant. Fait que si vous lisez dans Louis II, ça sonne pas du tout pareil. Je trouve que ça, la version français courant, c'est plus étendu, plus précis. Fait que ça dit « Agrandis la tente où tu vis, tant d'étoiles supplémentaires, ne regarde pas à la dépense, allonge les cordes de ta tente, consolide les piquets, car tu vas t'agrandir de tous côtés. Tes fils vont récupérer les territoires voisins et tes villes désertées vont être peuplées. » Les deux bras m'ont tombé. En tout cas, je peux vous dire, là, prophétiquement, c'est trop petit ici. Moi, là, vraiment, qu'est-ce que Dieu me disait, là, l'aéroport, là, c'est trop petit. Puis, qu'est-ce que j'avais à cœur, c'est que, tu sais, je vois vraiment, c'est ça, Dieu, en 2009, là, qu'est-ce qu'il me disait, c'était une année surnaturelle. Une année surnaturelle à tous les niveaux, la faveur de Dieu surnaturelle, la faveur de Dieu, le surnaturel dans votre corps, le surnaturel dans vos relations familiales, le surnaturel sur tout. Mais vraiment, ça, c'était, ça va être surnaturel la façon que l'Église va agrandir. Fait que ça, c'est qu'est-ce que Dieu m'a donné pour vous, puis je voulais vous bénir en 2009. Mon mari va élaborer plus là-dessus, mais je vous encourage à venir les mercredis. Vraiment, c'est pas gênant. Puis venez le mercredi, puis on va prier pour ça, puis on prie pour vous, mais on prie beaucoup pour... tu sais, Dieu veut faire des grandes choses avec nous autres, puis je vous encourage à venir, vraiment. Puis moi, en tout cas, je sais qu'en 2009, là, je veux rien manquer, qu'est-ce que Dieu a en réserve pour nous autres. Ça va être le surnaturel à toutes sortes de niveaux. Moi, je prie, là, de voir de voir dans l'invisible, puis je prie souvent que mon cœur batte avec le cœur de Dieu, mais ma prière, c'est ça pour vous, que votre cœur batte avec le cœur de Dieu, puis Dieu a des projets de paix, puis non de malheur pour vous. Tout ce que Dieu a en réserve pour vous autres, là, c'est le mieux. Fait que, souvent on pense, là, aller dans notre voie, ça va être la meilleure, mais sa voie, là, ses projets, c'est des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Fait que je veux vraiment vous encourager, là, en tout cas, vous pouvez jamais vous tromper en suivant Dieu, puis en allant, là, 100% all the way. Fait que soyez bénis en 2009, puis j'ai une expectative de qu'est-ce que Dieu va faire pour vous. Soyez bénis.
Gloire à Dieu. Je suis bien béni, comme vous voyez. J'ai une bonne femme. Pas la bonne femme, mais une bonne femme. Amen. Est-ce que vous êtes prêts d'aller dans la parole de Dieu cet après-midi? Il y en a 3-4. Gloire à Dieu. On va réveiller les autres. OK. On va aller dans la prière, juste donner ce temps-là au Seigneur. Merci Seigneur Dieu pour ta parole. Merci, Seigneur Dieu, pour ton esprit qui nous révèle ta parole. Et Seigneur Dieu, je te prie que tu puisses te révéler davantage à chaque personne ici, que tu puisses nous donner les yeux pour voir, Seigneur, c'est quoi toi tu vois, qu'on puisse avoir ta vision, Seigneur Dieu, qu'on puisse avoir les oreilles pour entendre ce que l'Esprit de Dieu dit à l'Église ici de Bromont. J'ai prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, aujourd'hui, le titre du message, c'est 2009, année de l'expansion. Alors, c'est ça qu'on croit pour nous et pour vous. C'est une année d'expansion à tous les niveaux dans vos vies. Et puis, je pense que ça va être quelque chose, un message bénissant, parce que moi, j'ai été béni à le préparer. Alors, je vous invite à tourner dans Proverbes 29 et le verset 18. Dans Proverbes chapitre 29 et le verset 18, et je vais lire dans la Bible du Semeur, ça dit « Quand il n'y a plus de révélation divine » ou dans le français courant, ça dit « vision d'avenir ». Donc, quand il n'y a plus de révélation divine ou de vision, le peuple se laisse aller ou le peuple périt. Heureux celui qui obéit à la loi de Dieu. Donc, sans une révélation de la vision de l'avenir, le peuple de Dieu se laisse aller. Et dans notre assemblée ici à Bromont, je crois que vous pouvez demander à n'importe quelle personne qui est une personne régulière ici, si quelqu'un vous demandait « c'est quoi la vision de votre Église? » Vous saurez tout de suite c'est quoi la vision. Je pense que vous la connaissez, la vision de l'Église. Est-ce que la vision ici, c'est de l'évangélisation par le moyen de littérature? Peut-être vous allez dire « bien, ça rentre peut-être dans le cadre, on va en faire de la littérature, mais ce n'est pas ça la vision numéro un. Notre vision, c'est de rejoindre la francophonie par les médias. Donc, la littérature, ça en fait partie, là, mais en grosse partie, ça fait partie de la télévision, la radio, l'Internet et bien sûr l'écrit, tout ça. Mais c'est rejoindre la francophonie par les médias. C'est ça notre cœur ici. Alors, moi, je trouve ça, c'est vraiment important pour vous d'avoir la vision de l'Église, de la comprendre, puis je sais que la majorité d'entre vous, la connaissez, parce que quand vous vous promenez d'église en église, comme j'ai fait, moi, des fois, je posais la question au pasteur, je disais, c'est quoi la vision que vous avez pour votre église? Puis des fois, j'étais surpris, mais il y a beaucoup, beaucoup de pasteurs qui n'ont pas de vision pour leur église locale. On va parler avec eux, puis ils vont dire, c'est de gagner des âmes. C'est bon, ça, de gagner des âmes. Mais spécifiquement, c'est quoi le mandat que Dieu vous a donné à vous, comme Église, c'est quoi votre rôle dans le grand rôle de gagner des âmes? Parce qu'on est tous appelés à gagner des âmes. Mais spécifiquement, c'est quoi notre portion qu'on est supposé de porter pour que le royaume de Dieu puisse prendre de son territoire? Bien, moi, je me souviens, j'étais dans l'Arctique l'année passée, en 2008. Et puis, j'étais là avec un pasteur, puis il me disait, moi, j'ai posé la question, je dis, c'est quoi votre vision? Puis il me dit, j'en ai pas de vision. On n'a pas, je me suis jamais arrêté à penser à ça. C'est quoi notre vision? Puis il a dit, mais comment qu'on fait avoir une vision? J'ai dit, on demande à Dieu. On demande à Dieu, c'est quoi ta vision, Seigneur? Et quand on a la vision, on ne va pas périr, on ne va pas se laisser aller, parce qu'on va être embrasé par ce feu-là qui est en dedans de nous, puis la vision est devant nous, on va dans cette direction-là, et là, on peut discerner les choses qui sont autour de nous, puis voir, ça rentre-tu dans notre vision ou non? Comme quelqu'un peut me contacter puis dire, j'ai un tel projet, Je peux prier là-dessus, voir si ça peut entrer dans le cadre de notre vision. Mais souvent, comme j'ai été contacté par un ministère puis m'offrait quelque chose, je sentais pas que ça, c'était pas notre vision, c'était pas vraiment ce dont Dieu nous appelait à faire. Sauf qu'on va pas perdre notre temps puis aussi perdre le temps des autres. On veut accomplir la vision que Dieu nous donne. Sauf que je pense que c'est ça, c'est important. Quand il n'y a plus de révélation divine, le peuple se laisse aller. Mais nous, on n'est pas en train de se laisser aller, on est en train de bâtir quelque chose pour la gloire de Dieu. Puis je me réjouis parce qu'on a des gens de vision et puis des gens aussi qui sont prêts à s'engager dans la mission. Vous savez, faire une église à l'aéroport, ça prend des gens engagés. Puis on est vraiment bénis de vous avoir là et puis vous œuvrez. Mais moi, je peux vous dire que prochainement, vous savez la parole que mon épouse a partagée, mais je crois que prochainement, on doit aller ailleurs de cet endroit parce que, premièrement, c'est limité comme espace. Et puis, deuxièmement, c'est beaucoup d'ouvrages. Troisièmement, c'est beaucoup d'ouvrages. Et quatrièmement, c'est beaucoup d'ouvrages. Et puis, cinquièmement, c'est beaucoup d'ouvrages. Non, c'est une joke. Mais cinquièmement, c'est que aussi, c'est pas un endroit où on peut se réunir la semaine. C'est tout à fait normal qu'on ne peut pas se réunir parce que c'est pas notre église physique. Et vous connaissez les limitations qu'on a eues ici avec la ville de Bromont. Alors, mercredi soir, je vais partager un petit peu des choses et stratégies, mais on est dans un temps où Dieu est en train de nous montrer des choses où on peut entrer et prendre du territoire à Bromont sans faire tous les changements de zonage qu'on pensait qu'on devrait faire. Alors, je vais partager ça mercredi, mais c'est encourageant parce que moi, ça m'excite. Ça fait deux soirs que je ne pouvais pas m'endormir. Ça me prenait bien longtemps avant de m'endormir parce que ça trottait là-dedans. Amen. J'aimerais ça vous lire un autre verset dans Ésaïe, chapitre 42, verset 9. Dieu, il dit, ça c'est un message que je vous donne, quelques versets ici, c'est pour l'Église en général, okay, l'Église d'aujourd'hui, l'Église francophone de la planète, c'est des versets généraux. Mais pour 2009, ici ça dit, voici les premières choses se sont accomplies. en parlant des prophéties. Dieu s'est accompli. Toutes sortes de choses qu'il a prophétisées sur la francophonie, ça s'est accompli. Et même dans nos vies. Mais dans Ésaïe 42, verset 9, c'est dit « Et je vous en annonce de nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. » Puis Dieu est comme ça. Dieu se préoccupe tellement de son peuple qu'il va nous dire les choses à l'avance pour savoir comment se positionner pour voir la récolte que Dieu veut qu'on puisse récolter. Dieu est en train de nous donner des nouvelles choses. Il dit ici « Je vous en annonce des nouvelles choses avant même qu'elles arrivent. » Et Dieu dévoile des choses, Dieu expose des choses. Et vous savez, quand on prie les mercredis soirs, ça ne veut pas dire qu'on va voir tout exposé le soir même. Mais souvent, là, on a prié dans le passé, même avant d'entrer ici, et Dieu a exposé des choses. Et là, à cause de ça, on a plus d'informations, on sait comment prendre des meilleures décisions. Mais tout ça, c'est parce qu'on prie et Dieu parle et Dieu agit. Et dans Ésaïe 60, 1 à 2. Ici, c'est un texte encore pour l'Église en général. Mais ça dit « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. » Et j'ai lu ce texte-là il y a quelques semaines, mais je l'aimais et ça me tentait de vous le lire encore. Je dis, mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Et c'est pour nous, la gloire de Dieu apparaît sur nous. Amen. Et dans Habacuc, chapitre 2, 14, ça dit, « Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. » Mais ça dit, « La terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel. » Comme Dieu va envoyer sa gloire sur nous. Puis quand on parle de la gloire, on parle de la présence de Dieu. Les gens, ce n'est pas tout le monde qui va connaître la gloire de Dieu. Mais ça dit tout le monde, c'est de la terre sera remplie de la connaissance de la gloire. Les gens vont entendre parler que la manifestation de la gloire est à quelque part. Et puis moi, je crois qu'on fait partie de ceux qui vont faire partie de ce quelque part-là. Pourquoi? Parce que c'est ça qu'on désire. Si on désire voir la gloire de Dieu, pensez-vous que Dieu va passer à côté de nous? Certainement pas. Et il y a des choses qu'on doit faire pour se mettre en position pour voir la gloire de Dieu. Et c'est ça le message aujourd'hui, l'année d'expansion. Ce que moi je recevais dans mon cœur pour cette année, c'est une année de consécration. La première parole, c'était l'année pour la sainteté. Mais ça me disait, ouais, mais c'est toujours le temps d'être saint. Mais c'est un temps aussi d'entrer dans plus de sainteté dans notre vie, dans notre marche chrétienne. Donc Dieu nous appelle à plus de consécration. Ayez pas peur, ça ne veut pas dire qu'on va mettre un joug humain sur vos épaules. Ce n'est pas ça qu'on parle. Mais la sainteté selon le cœur de Dieu. Et puis, mais avant d'aller à tout ça, je veux lire d'autres versets qui sont vraiment concernant l'Église ici. Entre autres, le verset que mon épouse a lu. Je vais vous le relire ici. C'est dit « Agrandis la tente, Ésaïe 54, verset 2 à 3. Agrandis la tente où tu vis, tant d'étoiles supplémentaires, ne regarde pas à la dépense. » Ça, c'est quand mon épouse m'a lu ça sur le divan l'autre jour. Ça me disait de quoi ça. Ne regarde pas à la dépense. Vous savez, là, quand on va louer un emplacement comme ça, imaginez-vous que ça coûte quelque chose? Oui. Mais Dieu nous dit, agrandis la tente où tu vis, tant d'étoiles supplémentaires, ne regarde pas à la dépense, allonge les cordes de ta tente, consolide les piquets, car tu vas agrandir de tous côtés. Et je crois que comme on va donner plus de place aux gens de venir, que la place va se remplir. Alors, je peux vous dire, présentement, on est au point où on est prêt à aller louer une place. La seule chose, c'est qu'il faut voir vraiment si cette place-là est l'endroit parfait. Savez-vous pourquoi? Parce que moi, je pensais qu'on pourrait aller louer une place. Mon épouse a dit, j'ai peur que c'est trop petit. Alors, c'est juste ça, en réalité, qu'est-ce qui nous empêche pour le moment, c'est de voir, c'est-tu assez grand, là où Dieu nous envoie. C'est pour ça qu'on a besoin de vos prières les mercredis, pour que vous puissiez prier avec nous. Si vous ne pouvez pas venir, vous travaillez pour peu importe les raisons, mais priez pour ça pendant la semaine, pendant que vous êtes chez vous. Priez que Dieu nous donne la sagesse pour savoir où louer. Parce qu'on veut vraiment être à l'endroit parfait. Puis quand on sert le Seigneur, Dieu va se révéler à nous, puis on va être sûr de la place. On ne veut pas louer une place, puis dans quelques mois, on dit, oh, c'est trop plein déjà, puis on regrette notre coup. Mais on veut vraiment être à l'écoute de Dieu, prendre la bonne place, et puis on va être content. Et dans Matthieu 10, verset 16, ici, je voulais vous lire ce texte-là. Parce que ce que Dieu nous demande de faire, c'est en accord avec la parole de Dieu. Dans Matthieu 10, verset 16, c'est dit, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. » Et ça, c'est Jésus qui parlait à ses disciples. « Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme les colombes. » Mais je vais relire ça cette fois-ci. J'ai fait des recherches pour trouver ça en français. Je peux vous dire, des fois, la Bible francophone, ça m'attriste des fois parce que les versets qu'on connaît en anglais sont traduits d'une autre façon. Puis des fois, j'ai fait 4-5 versions pour trouver le mot qui devrait être là. Mais je vais le relire. Ça dit, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc rusés. » Ça, c'est dans la Bible Tob. Ce n'est pas une Bible que je me réfère souvent. Là. La Bible Tob, c'est « Soyez rusés comme les serpents et simples comme les colombes. » Okay? Ou « innocents » selon la Bible du Sommeur. Donc, on doit être innocent, mais « rusés comme les serpents. » Ça veut dire des fois, pour entrer dans notre destinée, il faut faire des choses qui sont selon la loi, mais qui vont à l'encontre des limitations que l'ennemi voudrait mettre sur nous. Ça, c'est juste une chose, il faut comprendre. Il faut être rusé. Il faut savoir comment est-ce qu'on peut faire ce que Dieu nous demande de faire sans faire tout ce que l'ennemi voudrait qu'on passe à travers. Parce que vous savez, on pourrait faire des démarches et investir beaucoup d'argent et par la suite, on pourrait encore se faire dire non. Parce que dans la situation présente où on est, c'est ça. On pourrait tout investir, puis finalement, il y aurait ça passerait devant un conseil, tout ça, puis il dirait, ça ne tente pas, puis on n'aurait rien à faire. On n'aurait aucun pouvoir. Mais en tout cas, le Seigneur nous montre présentement, on peut faire des choses, être selon la loi, mais c'est être rusé. Et puis, c'est biblique. Je voulais juste vous laisser savoir. Alors, pour entrer dans notre destinée, puis pour vivre l'expansion, okay, qu'est-ce qu'on doit faire? Bien, on doit se consacrer. Si on prie, on cherche la face de Dieu, on marche dans la faveur de Dieu. Dieu nous dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alors moi, je suis pasteur à l'église de la victoire. Puis comme ma soeur disait tantôt, bien, on va avoir la victoire, c'est clair. C'est l'église la victoire. C'est impossible de ne pas l'avoir la victoire. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est se consacrer. Et dans Actes, chapitre 3, versets 19 à 20, ça dit, « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. » Pourquoi est-ce qu'on doit se repentir, se détourner de nos mauvaises voies? Bien, c'est une raison très claire. « Afin que des temps de rafraîchissement viennent. » Et c'est ça qu'on veut. C'est quoi ça, des temps de rafraîchissement? Bien, des temps de rafraîchissement, c'est des temps dans la présence de Dieu. Et quand on est dans la présence de Dieu, c'est ça qui change tout, n'est-ce pas? Quand on est dans la présence de Dieu, Dieu fait du ménage, Dieu guérit, Dieu transforme des vies. C'est ça qui se passe dans la présence de Dieu. Mais si on ne se repent pas, ça ne veut pas dire qu'on doit se repentir des grosses affaires. Des fois, c'est juste des petites choses qui empêchent vraiment la gloire de Dieu de se manifester dans nos vies. Mais juste des petites choses que Seigneur, l'Esprit de Dieu va nous dire. Tu sais, là, qu'est-ce que tu fais? Peut-être que tu devrais plus faire ça comme ça. Ou peut-être, tu sais, tu investissais tant de temps à faire ça, peut-être seulement de faire ça maintenant à place. Puis quand on se repent de notre, peut-être, le temps perdu, le temps mal investi, là, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est se détourner de ça et de se consacrer davantage. Puis là, ça dit, des temps de rafraîchissement vont venir de la part du Seigneur. C'est ça qu'on veut, être dans la présence de Dieu. Et c'est ça qu'on recherche de tout notre cœur, c'est ce qu'on veut absolument. Puis dans la présence de Dieu, ah merci, c'est super gentil. Petite pause d'eau pour la radio. Je continue. Et donc ça, c'est une des choses, on veut voir la gloire de Dieu parmi nous. Moi, c'est ça que je veux voir. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, là, vous avez soif de plus de la gloire de Dieu. En passant, mercredi soir qui s'en vient, je vais vous faire écouter une cassette audio de mon frère Jean qui m'a prêté. C'est absolument, on va utiliser le mot, capotant. Moi, j'ai écouté ça une couple de fois. Parce que vous savez, il y a quelques semaines, je vous ai fait écouter juste un petit clip, un extrait d'une réunion. Quand la gloire de Dieu a descendu, c'était super beau. Mais là, dans cet enregistrement-là que Jean m'a prêté, c'est sept personnes qui étaient dans une réunion d'église. Et puis, il y avait un visiteur qui était là, puis il a décidé que, je trouve ça tellement beau, je veux enregistrer ça. Je veux enregistrer les sept personnes qui chantent. Mais là, quand c'est venu le temps de réécouter la cassette, là, le frère en question, il a dit, « Ah, j'ai tellement trouvé ça beau. Écoutez, là, on va réécouter qu'est-ce que vous avez fait. » Puis quand il écoute ça, finalement, c'était une multitude de voix. Et puis, même si c'était des gens qui chantaient a cappello, sans musique. Il y avait toutes sortes de musiques enregistrées. Et il y avait même un soliste qui n'était pas parmi les sept qui chantait des solos gospel. En tout cas, c'est capotant. Sauf que c'est mal enregistré. On doit dire, c'est, je pense que c'est une cinquième génération qu'on a de la cassette. Là. Ça a été enregistré bien des fois. Ça fait que la qualité n'est pas superbe. Là. Mais la présence de Dieu est là quand même. Parce que Dieu va au-delà de la qualité. Mais en tout cas, moi, j'ai écouté ça. Mes petites filles ont écouté ça. On l'a écouté plusieurs fois. J'ai fait écouter à des amis, tout ça. Puis je trouve que ça nous stimule dans notre foi. Parce que vous voyez, là, on ne voit pas les anges autour de nous, mais ils sont là ce soir. Parce que Dieu est vivant. Dieu, ce n'est pas une religion qu'on sert. On sert un Dieu vivant et Dieu a des anges. Dieu, le diable, il a des démons. Il y a toute cette dimension spirituelle qui est là. Mais quand on s'approche de Dieu, on rentre dans une dimension de vie avec Dieu qui est merveilleuse. Puis ça, c'est juste une chose, un petit bijou que je vais vous faire écouter mercredi soir pour vous stimuler dans votre foi. Parce que je trouve ça super beau. Hein? C'est super. Puis surtout le soliste, je me suis dit... Wow, qu'un ange, il sort de la chorale puis il se met à faire un petit solo, là. J'ai trouvé ça assez spécial. Donc, mais il faut se consacrer pour ça. Hein? L'invitation est lancée à tout le monde. On peut tous entrer dans les parvis de la gloire de Dieu, dans l'intimité avec Dieu, mais ce n'est pas tout le monde qui va rentrer. Puis, il y en a plusieurs qui vont se rendre au ciel, qui vont être sauvés, mais ils ne vont pas avoir goûté à la splendeur ou la dimension de la gloire qu'on peut entrer dedans. Parce que c'est juste une question de choix, ça. C'est une question de choix. Est-ce que je veux plus de Dieu ou est-ce que je suis satisfait avec ma religion évangélique? Parce que vous savez, être chrétien né nouveau, ça peut devenir une religion comme n'importe qui. On fait notre petite routine de semaine en semaine, dimanche en dimanche. Bon, à 9h30, on s'en va pour notre réunion de 10h, de 10 à 12, bing, midi c'est fini, on s'en va, on mange au restaurant, on s'en va chez nous. Puis là, on a fait notre routine évangélique, puis là, on refait ça le dimanche d'après. Il y en a plusieurs, peut-être vous avez été dans cet engrenage-là de la religion évangélique. Mais quand on vit une religion, on passe à côté de toute la gloire que Dieu veut pour nous, toute cette intimité avec Dieu. Et vous, déjà, vous avez franchi une barrière. Savez-vous pourquoi? Parce que vous, là, vous avez été capable de transposer 10h AM pour 4h PM. Wow! Vous avez franchi la barrière évangélique, vous avez franchi tout ça. Mais on va retourner à 10 heures quand on va avoir notre place. Woohoo! OK, Exode 33, versets 1 à 14. Je vais vous parler d'un petit monsieur, peut-être vous avez déjà entendu parler de lui, il s'appelle Moïse. Moïse, et puis il a reçu un commandement de Dieu, et on voit ici, ça a certainement rapport avec l'obéissance et comment, quand on se consacre à Dieu, ça veut dire on dit oui à Dieu. Comme j'enseigne à mes petites filles, c'est oui papa, oui maman. Et nous, ce que Dieu veut de nous, c'est « oui, papa ». Donc, Exode 33, versets 1 à 14, ça dit « L'Éternel dit à Moïse, va, pars d'ici ». Déjà là, Dieu donnait un commandement à Moïse. « Va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant, je le donnerai à ta postérité. » Remarquez ici que Dieu avait fait une promesse à Abraham qui a ensuite été accomplie. Abraham, Isaac et Jacob, Dieu parlait toujours parce que c'est un Dieu d'alliance. Et puis là, Dieu parlait à Moïse puis il dit, le même pays que j'ai promis à Abraham, Isaac et Jacob, là il dit, va par d'ici. Verset 2. « J'enverrai devant toi un ange et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Éthiniens, les Phérisiens, les Éviziens et les Jébusiens et les Broumontiens. » Verset 12. « Moïse dit à l'Éternel, « Voici, tu me dis, fais monter ce peuple et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. » Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Alors, c'est intéressant, Moïse, il dit, bien là, Seigneur, tu me dis de m'en aller, de partir, là, et tout ça, puis tu dis que tu me connais par mon nom, puis tu dis qu'un ange va m'accompagner, mais moi, je ne sais pas c'est qui, là, j'aimerais ça savoir. Alors, considère que cette nation est ton peuple. Au verset 14, l'Éternel répondit, « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » Comment vous aimeriez ça si Dieu vous disait ça? « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » voyez, quand on marche avec Dieu, quand on est consacré, on obéit comme Moïse a dit oui à Dieu, OK? Quand Dieu nous donne un commandement, c'est quoi qui se passe? Dieu dit, je vais être moi-même avec vous autres. Je vais être avec vous. Puis en plus, le fait que je suis avec vous, ça ne sera pas lourd et écrasant. Si vous avez connu ça dans le passé, où vous étiez toujours écrasé parce que vous étiez en train d'obéir soi-disant à Dieu, mais ce n'était pas le Dieu de la Bible. Parce qu'ici, il dit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Quand on marche avec Dieu, on est dans le repos. C'est-tu bon, ça? Moi, je trouve ça capotant. Amen. Donc, on vit dans le repos. Mais là, vous allez dire, oui, mais Joël, on est en train de bâtir une nouvelle église. Comment est-ce qu'on peut prêcher ça, être dans le repos? Et même, il y en a qui me diraient, ben, prêche pas ça, le repos, là. Attends qu'ils travaillent un peu, là. On les met à l'œuvre. Mais non. Savez-vous, la Bible, c'est toujours bon qu'on soit en train de bâtir une église ou qu'on soit en train de la démolir. Mais en passant, c'est pas la volonté de Dieu qu'on a démoli ça, non. En passant. Mais c'est ça ici, ça dit qu'on va avoir le repos de Dieu quand on obéit. Il va être là avec nous, puis on va avoir le repos. Et dans Nombre, chapitre 9, versets 15 à 23, ici, on va voir, Dieu a quand même mis son peuple sous un test, d'une certaine façon. Dans Nombre, chapitre 9, versets 15 à 23, on va voir ici, qu'est-ce qui se passait dans le temps lorsque le peuple d'Israël était en Israël puis se promenait dans le désert. Est-ce que le repos de Dieu, ça voulait dire qu'on faisait rien, qu'on était assis sur notre steak puis on se reposait dans ce sens-là, sur notre lazy boy spirituel, ou est-ce qu'on était à l'œuvre et est-ce qu'on devait prendre des pas? Au verset 15, on commence, ça dit, le jour où l'on érigea le tabernacle qui sert de tente aux tablettes de l'acte de l'Alliance, la nuée le couvrit. Le soir, cette nuée au-dessus du tabernacle devint comme le feu et resta là jusqu'au matin. Verset 16, il en fut continuellement ainsi. Le jour, la nuée couvrait le tabernacle et pendant la nuit, elle avait l'apparence d'un feu. Au verset 17, « Chaque jour que la nuée s'élevait au-dessus de la tente, les Israélites levaient le camp et là où elle s'arrêtait, ils dressaient leur campement. » Au verset 18, « Ainsi, c'est au signal de l'Éternel que les Israélites levaient le camp et à son signal qu'il le réinstallait. Aussi longtemps que la nuée restait sur le tabernacle, ils ne bougèrent pas de l'endroit. » Verset 19, « Même si elle s'attardait longtemps sur le tabernacle, ils observaient fidèlement les indications de l'Éternel et ne partaient pas. » Au verset 20, « Parfois, la nuée ne s'arrêtait que quelques jours sur le tabernacle. C'était toujours un signal de l'Éternel qu'il dressait le camp et qu'il le levait. » Il arrivait même qu'elle ne s'arrête que durant une nuit. Lorsqu'elle se levait le matin, il levait le camp, ou bien elle s'élevait longtemps encore sur le tabernacle, les Israélites restaient campés sans partir. Ils levaient seulement le camp lorsqu'elle s'élevait. Mon doux, c'est quoi tout ça? On sait que le nuage de Dieu descendait sur la tente, qu'on appelle le tabernacle, qui représente la présence de Dieu. Le nuage représente la présence de Dieu. Alors, quand le nuage descendait, on savait que c'était correct, mais quand le nuage se levait, ça voulait dire, OK, on doit se mettre en marche. Le soir, le nuage se transformait dans un feu. Verset 23, ça dit, « C'est sur l'ordre de l'Éternel qu'il dressait le camp et le levait. Ainsi, ils observaient ce que l'Éternel indiquait conformément aux instructions qui leur avait été donné par l'intermédiaire de Moïse. » Donc, on voit un phénomène qui se passait ici. On voit le nuage qui représente la présence de Dieu qui était là sur la tente, et le nuage disparaissait quand c'était le temps que le peuple de Dieu commence à marcher dans le désert puis commençait à avancer, à aller vers l'avant. Mais qu'est-ce qui est intéressant? Imaginez-vous le dérangement que ça devrait faire. Imaginez tous les gens là avec Moïse, et là, on venait de camper là un soir. OK, puis là, vous avez vos enfants avec vous autres, puis là, tout le monde sont là, on est tout installé pour la nuit. Puis là, qu'est-ce qu'on voit le lendemain? Le nuage monte, puis là, finalement, il faut redéménager. Hey, on a dormi ici juste un soir, là. Juste un soir, puis là, il faut tout défaire, puis tout refaire. Pouvez-vous vous imaginer comment ça a dû être ennuyant pour les petites mamans avec des enfants, être obligé de toujours suivre le nuage? Bien, pensez-y deux minutes. Nous, c'est pas si pire que ça. Hein? On n'est pas obligé de déplacer nos lits, nos sets de cuisine, nos divans. Non, mais c'est quand même de quoi? Qu'est-ce qu'ils ont appris à faire dans le désert? Ils ont appris à suivre la nuée. Ils ont appris à suivre la présence de Dieu. C'était ça la leçon. Vous allez suivre la présence de Dieu. Puis quand on suit la présence de Dieu, bien notre esprit là en dedans va le savoir où est l'esprit de Dieu. Mais vous allez dire, oui, mais Joël, Dieu est partout. Oui, Dieu est partout dans le sens qu'il est omniprésent. Il peut voir toute la terre, tout ça. Mais il y a des endroits où la présence de Dieu vient s'installer parmi son peuple. Et puis, moi, je peux dire qu'on vit et on va vivre davantage des temps comme ça. Alors, ce qu'on veut faire, c'est suivre la présence de Dieu et toujours dire oui. Donc, c'est ça le test de l'obéissance. Quand Dieu vous dit, levez-vous, prenez votre place, levez-vous. OK, deux jours, vous êtes assis. Là, après, le nuage avance. Et puis, finalement, là, vous allez être là pendant deux mois. Comme ici, on a été quelques mois, là, puis on n'a pas fini encore. Mais il faut être prêt à ne pas être ancré dans notre religion et ancré dans « c'est comme ça que j'ai fait ça, ma vie chrétienne, puis c'est toujours comme ça. Je vais être comme ça jusqu'à temps que je meure, moi. » Connaissez-vous des gens qui ont dit « moi, là, je suis né ici, je vais mourir ici. » Peut-être que vous en connaissez des gens comme ça. Mais on peut faire ça, puis dire « moi, je suis né ici, je vais mourir ici, puis on serait au ciel quand même. » Mais si Dieu, son nuage est rendu là-bas, il faut suivre le nuage de Dieu. Puis si on suit le nuage de Dieu, on va être dans la présence de Dieu. Puis là, on va goûter à tous les bienfaits. Puis on va vraiment entrer dans notre destinée. Qu'est-ce qui est triste, c'est quand les gens, ils décident qu'ils ne vont pas suivre le nuage. Puis ils vont suivre leur propre désir ou leur raisonnement humain. Puis moi, c'est comme ça que je veux faire ça. Puis quand on fait ça à notre façon, la destinée que Dieu avait en réserve pour nous, on peut carrément passer à côté. C'est important d'être consacré, prier, « Seigneur, où c'est que tu m'appelles? » Moi, je peux vous dire, à l'âge de 12 ans, là, j'ai changé d'église. Vous avez dit, « Comment tu as fait ça, Joël? » Bien, mes parents allaient dans une église. Puis moi, j'ai dit à mes parents, j'ai dit, pour mes raisons, j'ai dit, moi, je me sentais appelé d'aller dans une autre assemblée. Puis combien de parents vont dire à leurs enfants, « C'est correct, tu peux t'en aller dans une autre assemblée. » Mais mes parents, là, ils croyaient tellement dans l'Esprit de Dieu en dedans de moi qu'ils ont dit, « Tu as vraiment la conviction que tu dois aller dans cette assemblée-là? » J'ai dit « Oui, vas-y. » Vous avez dit « Mais comment vous t'as fait? » Bien, je m'en allais à l'église de mon oncle et il habitait à deux maisons de chez nous. Ça fait que je pouvais aller marcher pour me rendre à sa maison. Puis j'embarquais avec lui puis j'allais dans son église. Et j'ai commencé à servir le Seigneur à l'âge de 12 ans. Je faisais l'école du dimanche de l'âge de 12 ans à 18 ans. Mais j'ai dû suivre le nuage pour ma propre vie. Puis pas juste suivre le nuage de mes parents. En passant, je ne recommande pas ça pour tout le monde. Moi, mes enfants, ils vont venir à l'église de la Victoire jusqu'à 18 ans. Non, mais il faut bien clarifier les choses quand même. Non, mais généralement, hein, les enfants vont suivre les parents, parce que généralement, les parents vont être dans une bonne situation. Mais moi, j'avais une conviction, puis mes parents m'ont appuyé là-dedans. J'étais pas rebelle. Si mes parents avaient dit, tu vas rester avec nous, j'aurais resté avec eux. Mais en tout cas, j'ai suivi le nuage pour ma vie, puis j'ai été béni. J'aurais été sauvé quand même dans l'autre situation, mais j'aurais pas goûté aux choses que j'ai vécues. En tant qu'adolescent, je me suis promené dans des pays missionnaires, puis j'ai pu voir des miracles, puis des choses comme ça, que j'aurais pas vu autrement. Alors, gloire à Dieu pour ça. Donc, Dieu veut nous guider dans une bonne direction. Mais est-ce qu'on est attentif, puis est-ce qu'on veut vraiment suivre le nuage de Dieu sur notre vie, ou on ne prend pas le temps, carrément, ça a toujours été comme ça, j'ai toujours fait les affaires de même, c'est comme ça, ça va s'éteindre de même. C'est à nous de décider. Ça ne veut rien dire concernant notre salut, on peut aller au ciel quand même. Amen. En tout cas, ça, c'est une chose que j'avais à cœur de vous partager. Donc, même au niveau de votre ministère personnel, vous savez, des fois, ça fait des années qu'on fait un tel ministère dans l'église locale. Puis tout d'un coup, le Seigneur peut dire, mon nuage sur ta vie maintenant, c'est de faire ça. C'est pas du tout une chose que vous pensez de faire. Mais là, Dieu vous appelle à faire ça. Des fois, c'est juste une chose comme ça, transposer nos talents dans un autre ministère, puis le goûter à d'autres choses. C'est toute une question de consécration, de sainteté, être à l'écoute de Dieu, puis Dieu va se manifester à nous. Une des choses pour vous aider dans la consécration, ce qu'on va faire en église, on va faire un jeûne. Vous savez, les églises de la Victoire ont appelé un jeûne pour toutes les églises à partir du 2 janvier. moi, j'en ai fait un jeûne avant l'ouverture d'église, deux jeûnes en fait, puis j'avais pas à cœur le commencer en même temps qu'eux, mais au mois de janvier, on va commencer, c'est juste un petit peu plus tard, peut-être le 20 janvier ou quelque chose comme ça. Alors, on va vous laisser savoir si vous avez à cœur d'être consacré dans la prière et le jeûne. Vous savez, c'est biblique ça, le jeûne. Et il y a des gens qui ont peur de jeûner, mais mon épouse, avant, là, elle ne pouvait même pas sauter un repas. Si elle sautait un repas, elle se mettait à trembler. Elle était, comment on dit, hypoglycémique. Vous savez, quand on met Dieu en premier, elle n'en fait plus là, d'hypoglycémie. C'était son premier jeûne qu'elle a fait, puis ça a été 21 jours, c'est ça? Première fois? Bon, en tout cas, c'est ça. Le premier jour... Ça a été brisé. Bon, à partir du premier jour qu'elle a jeûné, du matin au soir, ça a été brisé, l'hypoglycémie. Alors, il y a une puissance là-dedans, c'est sûr. Et même, il y a des façons de jeûner. Je pourrais même emmener des enseignements là-dessus. Une fois, mon épouse était malade, puis moi, vu qu'elle était hypoglycémique, je n'osais pas lui demander de jeûner, mais il y a le jeûne de 3 jours pour la guérison physique. Ça fait que moi, que j'ai fait, j'ai jeûné pendant 3 jours pour elle, et puis ça a brisé sa crise qu'elle avait eue dans son corps. Alors, il y a une puissance dans la prière, puissance dans le jeûne. Et puis, je vais sûrement enseigner là-dessus prochainement. Comme ça, on va pouvoir un petit peu se préparer pour le jeûne. Mais il y a toutes sortes de façons de jeûner. Peut-être que ça vous tente pas de jeûner complètement juste au liquide. Qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est le jeûne de Daniel. Alors, j'expliquerai un petit peu c'est quoi. Il y en a même aussi où on peut jeûner la télévision. Jeûner, c'est pas un vrai jeûne biblique, je peux vous dire. C'est pas, mais on peut s'abstenir de certaines choses qui prennent notre attention ou quand on pourrait vraiment le mettre dans les choses de Dieu. OK? Mais je prendrai plus de temps à un autre moment. Mais on peut rechercher plus la face de Dieu en se consacrant. Amen. Et l'autre chose que le Seigneur me disait, c'est aussi l'année pour le repos divin. Puis on l'a déjà vu en se consacrant, comme on s'approche de Dieu. Dieu est là, puis il nous a déjà promis le repos. Mais Dieu me disait, c'est le temps qu'on puisse entrer dans le repos divin. Amen. Dans Matthieu chapitre 11 et le verset 28 à 30, il est écrit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Quand on sert le Seigneur, ça ne dérange pas comment on peut être occupé pour lui. Si on a vraiment cette intimité avec lui dans la prière, on est dans le repos. C'est ça qui est merveilleux. Et vous savez, je connais un prédicateur qui a déjà vécu un burn-out. Il était super actif pour Dieu. Mais lui, qu'est-ce qu'il me disait? Il dit finalement, Joël, sais-tu, ce n'était pas l'activité qui m'a brûlé. Il dit, c'est qu'est-ce que je ne faisais pas qui m'a brûlé. Il dit, le temps que je courais, là, puis je courais, il dit, j'ai manqué dans ma consécration. Puis à cause de ça, il dit, je me suis brûlé, je me suis laissé brûler. Je ne crois pas que Dieu ne veut pas qu'on soit actif pour lui. Il faut être actif. Il y a tout un peuple qui périt, qui a besoin d'entendre parler de Jésus-Christ. Il faut faire de quoi? Mais en même temps, en faisant cette chose-là, il faut être dans le repos. Mais ça prend un peu d'effort à entrer dans le repos. Il faut s'efforcer à être dans le repos. Vous vous dites, comment ça, Joël? Comment est-ce qu'on doit forcer pour se reposer? Bien, c'est biblique. Allons dans Hébreux chapitre 4 et le verset 10. Et je vous lis dans français courant. Ça dit, car celui qui entre dans le repos préparé par Dieu se repose de son travail, comme Dieu s'est reposé du sien. Verset 11. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos. Faisons en sorte qu'aucun de nous ne tombe en refusant d'obéir comme nos ancêtres. Ça dit donc, je vais relire, celui qui entre dans le repos préparé par Dieu se repose de son travail. Donc, ce n'est pas le travail que vous choisissez, c'est le travail de Dieu. Il y a plein de gens, des chrétiens, qui aiment le Seigneur, mais qui font des œuvres que Dieu ne les a jamais appelés à faire. Des gens qui font des choses, puis c'est carrément eux-mêmes qui le font par peut-être un sentiment d'obligation. OK? Il n'y a personne d'autre qui le fait. Je suis obligé de le faire. Hein? Sentiment d'obligation, ça, ce n'est pas biblique. Et aussi, ça dit au verset 11, « Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos. » Si on doit forcer d'entrer dans le repos, mais comment est-ce qu'on fait ça? Ça veut dire qu'il faut faire du triage, puis voir les choses, les œuvres qui ne sont pas de Dieu dans nos vies, ou les choses même qui sont de Dieu, mais que Dieu ne nous appelle pas à faire. Aussi simple que ça, l'appel de Dieu, encore une fois, être connecté avec Dieu, puis mettre de côté les excès, les choses-là qui ne nous portent pas, qui nous font pas avancer dans les choses de Dieu. Des choses qui perdent notre temps. Vous savez, dans Éphésiens 2:10, ça dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, afin que nous les pratiquions, que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. » Ça fait que Dieu a déjà toutes sortes d'œuvres qu'il a préparées pour nous. Si on est connecté avec Dieu puis on prie, Dieu va nous dire « Joël, je veux que tu fasses telle chose. » Puis là, qu'est-ce qu'on fait? On dit « Oui, Seigneur, je le fais. » Puis je suis béni, je suis dans le repos. Puis le corps de Christ est béni. Tout le monde est content. Savez-vous pourquoi? Parce que je fais ce que je suis appelé à faire. Si je suis passionné pour faire quelque chose, ben, je vais être super content. Puis si je suis passionné, c'est parce que c'est le désir que Dieu m'a donné dans mon cœur. Et Dieu nous donne le désir de notre cœur, n'est-ce pas? Alors moi, je fais quelque chose qui me fait triper, qui me donne la joie. Puis là, c'est mon appel. Ben, vous autres, vous allez être bénis parce que c'est ce que Dieu m'a appelé à faire. Mais si, bon, admettons, moi, je demande à quelqu'un, OK, je vais demander à Martine, par exemple. Martine, voudrais-tu t'occuper de l'école du dimanche d'aujourd'hui jusqu'à la fin de tes jours? Bien là, Martine, elle dirait peut-être, oui, puis là, elle ferait, mais ce n'est pas son appel. Est-ce qu'elle va être passionnée, puis se réveiller le matin, puis dire, wouhou, je m'en vais faire l'école du dimanche? Non, elle ne fera pas comme ça, parce que ce n'est pas son appel. Mais au début de l'Église, en ouvrant l'Église, on a eu besoin des gens qui étaient prêts à aider. Est-ce qu'elle était prête à nous aider? Oui, elle a été prête à servir, mais elle savait en partant que ce n'était pas son appel, ce n'était pas sa passion. Puis on lui a dit, on va t'utiliser juste au début, juste pour nous aider à démarrer, jusqu'à temps que quelqu'un arrive. Mais il ne faut pas rester trop longtemps dans cette place-là, quand on n'est pas appelé à faire quelque chose. Parce que si on le fait longtemps, là, puis on n'est pas appelé à le faire, il y a quelqu'un dans l'Église qui est là qui dit, si seulement j'avais l'opportunité de faire l'école du dimanche, je le ferais, mais Martine, elle le fait, puis je ne veux pas prendre sa place. C'est ça qui se passe dans nos églises. Il y a plein de chrétiens frustrés qui vont œuvrer pour Dieu, puis ils vont œuvrer, puis ça va être super dur, puis pénible. Puis c'est pénible pour eux autres, puis c'est pénible pour les enfants qui les écoutent. Je donne ça comme exemple. Puis c'est pénible pour les autres chrétiens de l'église qui les entendent chigner, qui sont obligés de faire l'école du dimanche. Tout ça au sujet de l'école du dimanche, là, elle n'a pas chigné, Martine. OK? J'enlève toute culpabilité ou jugement contre Martine. Je donne ça comme exemple. Mais c'est ça. Dieu nous appelle à être à l'écoute, puis savoir dire oui à ce qu'on est vraiment appelé à faire. Parce que Dieu nous a tous donné des choses qui nous passionnent. Puis nous, ce qu'on veut voir, c'est des gens passionnés à être à l'œuvre de Dieu. Puis ça ne veut pas dire, là, hey, je ne suis pas passionné de laver les toilettes. Ce n'est pas ma passion. Mais des fois, il faut être prêt à dire oui puis aider. Hein? Faut être capable de faire la part des choses. Parce que moi, je peux vous dire, j'ai rencontré un monsieur dans une église, je ne dirai pas où, mais il est venu se présenter à moi, puis il a dit, « Bonjour Joël, moi je suis le prochain Billy Graham. » Puis j'ai trouvé ça très spécial. Mais il y a des gens qui sont juste prêts à faire qu'est-ce qui est super élevé, là, puis qu'est-ce qui leur fait sentir bien. Mais on se rappelle que Jésus était serviteur. Hein? Ça fait, c'est toute une question d'être bien équilibré dans notre foi, hein? Être équilibré dans toutes choses, mais de rechercher la face de Dieu pour savoir c'est quoi ma passion, comment est-ce que je peux mettre mes passions au service de Dieu. Puis là, moi, je vais être béni. Les enfants vont être bénis qui vont recevoir l'école du dimanche. Et puis l'église aussi vont être bénis. Puis Marie-Josée, là, qui est en charge de l'école du dimanche, qui a reçu 5 rêves. Jésus, là, elle a eu 5 rêves, lui disant de venir se joindre à notre église. Ça, c'était Dieu qui lui parlait. N'est-ce pas? Quand on a eu 5 rêves, y a-tu beaucoup de place pour être confus? Seigneur, tu veux-tu ça? 5 rêves. Mais elle est heureuse au bout, là. Elle est super contente. Marie-Josée, elle flotte. Elle nous dit ça, là. Elle flotte. Elle arrive chez elle. Des fois, elle a de la misère à s'endormir tellement qu'elle est bénie. Gloire à Dieu. Alors, c'est ça qu'on veut. On veut faire. On veut entrer dans le repos divin, mettre de côté les œuvres mortes. Amen. Et Colossiens chapitre 1, versets 9 à 11. Ici, ça dit, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Voyez-vous, Dieu veut qu'on porte des bonnes œuvres, du fruit dans les bonnes œuvres, et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérant et patient. Voyez là, quand on fait les bonnes œuvres que Dieu nous appelle à faire, on va être dans la joie, on va être persévérant, on va être patient. Amen. Il faut discerner les œuvres aussi, c'est ça, il faut discerner. Et c'est de comprendre aussi que les choses que Dieu nous appelle à faire sont tellement grandes, sont tellement grandioses qu'on ne peut pas supposer que c'est à cause de nous qu'on va les vivre. Réalisez-vous ça? Dieu, le mandat qu'il nous a donné ici, c'est d'établir un centre ministériel pour rejoindre toute la francophonie. C'est-tu un mandat assez grand à vos yeux? Oui. Est-ce qu'on est capable de le faire par nous-mêmes? Non. C'est ça, c'est quand c'est tellement grand que c'est impossible, c'est là où on peut se réjouir parce que qu'est-ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. C'est merveilleux. Puis vos rêves que vous avez, les choses que vous aimeriez faire, moi je crois là, qu'il y a une façon que ça va tout tomber comme un morceau de casse-tête. Il y a des dons, des talents entre chacun de vous et tout ça, ça va tomber, ça va fitter là, comme un casse-tête. Et puis, quand on comprend que c'est tellement grand, moi je me souviens, j'étais en Alberta, puis on recevait des paroles prophétiques, des prophètes des États-Unis ou même des personnes qui ont un ministère international. Là. C'est vraiment des personnes crédibles. Quand ils donnaient des paroles, au début, c'était comme, c'est quasiment incroyable, ça se peut pas, mais c'est ça qui est merveilleux. Ça se peut pas, mais ça se peut. Amen. Parce que dans Zacharie 4, 6, ça dit, ce n'est ni par puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit Seigneur. Puis si on va être connecté avec Dieu, puis on va avoir cette relation avec lui, on va prier, puis Dieu va faire tomber les murs, il va aplanir le sentier. Ça se passe là dans la prière. Puis il n'y a personne qui va pas dire « C'est à cause de moi que cette chose-là a réussi. » Ça n'arrivera pas à cause de Joel Spinks. Ça n'arrivera pas à cause de vous. Ça va arriver à cause de lui. Puis on va avoir simplement dit oui au boss. C'est ça que Dieu veut. Dieu, il veut une armée des gens qui vont dire oui. Autant dans notre vie personnelle comme dans le ministère. Tout ça, il recherche juste du monde qui dit. Il recherche des « yes men ». Ça que Dieu veut. Dieu, il sait où c'est qu'il s'en va. Il recherche des yes men. Comprenez ça, les yes men? Amen. Oh, wow. OK. Donc, c'est l'année du repos divin. Pas l'année où on s'endort spirituellement, mais le repos divin, on fait les œuvres que tu nous appelles à faire. Et l'année de la foi. OK? Pour faire les œuvres de Dieu, il faut être motivé par la foi. Et bien sûr, la foi, bon, c'est une manière de vivre. Dans Galates 3:11, ça dit « C'est le juste qui vivra par la foi. » Donc, c'est une manière de vivre. Vous savez, des fois, il y a des gens qui n'ont plus de salaire, ils ont décidé de se lancer dans le ministère, puis ils disent « Ah, ben je vis par la foi. » Ça en dit long en titi. « Je vis par la foi. » Ça veut dire « Je crève de faim, aidez-moi quelqu'un. » Mais le juste vivra par la foi. Ça veut dire, hey, on vit par la foi. Mon salaire, ça ne vient pas de Miracle Channel. Pas rien. Mon Dieu est ma source. Je vis par la foi. Vous, pareillement, que vous ayez un employeur ou qui a un numéro d'entreprise ou que vous n'ayez pas, on marche par la foi. Si c'est pendant un temps, vous êtes dans un tel travail, puis là, Dieu vous change d'une autre place, on vit tout par la foi. Amen. Ça n'a pas rapport avec... un employeur ou non, c'est on marche cette vie de foi constamment. C'est ça qu'on est appelé à faire. C'est tout à fait normal quand on est un enfant de Dieu. C'est tout à fait normal. Et aussi, donc c'est une manière de vivre par la foi, c'est une manière aussi de parler. Dans Romains 10, verset 8, ça dit « La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, c'est la parole de la foi que nous prêchons. » Ici, nous prêchons la parole de la foi. Ce n'est pas la parole du doute. Hein? C'est pour ça que c'est important de s'exposer régulièrement à des enseignements de foi qui vont vous bâtir. Pourquoi? Parce que ça va influencer la façon que vous pensez. Si vous entendez des messages négatifs qui ne sont pas basés en la parole de Dieu, qu'est-ce que ça va faire de vous? Vous allez être charnel dans votre pensée. Puis dans Proverbes 23, 7, ça dit que l'homme est comme les pensées de son âme. L'homme est comme les pensées de son âme. Si vous vous remplissez d'enseignements, puis là, vous pensez comme Dieu pense, vous pensez des choses de foi, vous pouvez voir ce que Dieu vous appelle à faire, bien là, c'est merveilleux. Vous marchez vraiment par la foi, vous vivez vraiment dans la foi. Mais c'est toute une question, encore une fois, de bien entendre des bonnes paroles. C'est vraiment là. Et dans Hébreux 11, verset 1, ça dit « La foi est une façon de posséder ce qu'on espère, c'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. » Bien, nous autres, on est sûr de la réalité qu'on ne voit pas encore. On sait que Dieu nous prépare une place ici à Bromont. Il s'agit juste de prier et savoir c'est laquelle que Dieu veut qu'on choisisse. Amen. Ça, c'est le fun. Donc, on est tous ensemble dans ce voyage de foi. Mais peut-être pour votre vie personnelle, Dieu vous appelle à prendre un pas de foi, je ne sais pas, peut-être dans un désir que le Seigneur a déposé dans votre cœur, ça fait longtemps. Puis là, peut-être Dieu est en train de travailler votre cœur pour prendre un pas par la foi dans ce désir-là. Peut-être c'est une compagnie que Dieu vous appelle à établir. Peut-être, je ne sais pas, Dieu vous appelle à chanter, puis là, vous n'osez pas, mais vous voulez faire un lancement de disque. Je lance ça comme ça. Mais Dieu dépose des cœurs, dépose des désirs dans nos cœurs. C'est quoi que Dieu est en train de travailler en dedans de vous présentement, dans votre vie personnelle? Bien, Dieu vous appelle à marcher dans la foi là-dedans aussi. Et c'est également l'année de l'héritage. L'année de l'héritage. Moi, je crois, comme mon épouse a lu tantôt, dans Ésaïe 54, verset 2, « Agrandis la tente où tu vis, tends l'étoile supplémentaire, ne regarde pas la dépense, allonge les cordes de ta tente, consolide les piquets, tout ça. » Mais pour faire ça, on a besoin de l'héritage de Dieu pour nous. On a besoin de recevoir l'héritage céleste qui est en réserve pour nous pour qu'on puisse entrer dedans. Êtes-vous d'accord? Donc, on a besoin de connaître le Dieu que Moïse a connu, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Pourquoi vous allez dire ça? Pourquoi on a besoin de le connaître? Mais Dieu, c'est un Dieu d'alliance et Dieu a fait des promesses à Abraham. Dieu a fait des promesses et puis son héritage, c'est notre héritage aujourd'hui. Si on peut faire quelque chose à Bromont, si on peut établir ce centre ministériel-là, c'est à cause on a un Dieu qui a un compte de banque céleste et on a simplement à faire des retirements dans notre guichet terrestre. Des retraits. C'est quoi? C'est ça que j'ai dit? Des retirements. Des retraits. Hey, ma secrétaire francophone est la première rangée. Donc, c'est l'année de l'héritage. Et l'héritage, c'est la bénédiction. Donc, rapidement, je termine dans quelques minutes. Je veux juste vous donner quelques versets ici pour stimuler votre foi pour la bénédiction dans vos vies aussi. Okay? Dans Galates 3, versets 13 à 14, c'est dit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque qui est pendu au bois ». Au bois. Verset 14, « Jésus-Christ l'a fait pour que, grâce à lui, la bénédiction d'Abraham s'étende aux non-juifs. » Dieu a donné une parole à Abraham et cette même parole de bénédiction a été donnée non juste pour lui, mais aussi pour s'étendre aux non-juifs, comme on vient de lire, et que nous recevions par la foi l'Esprit que Dieu avait promis. Donc, la parole qui a été donnée à Abraham, Isaac, Jacob, tout ça, c'est pour nous les non-juifs. Amen. C'est quoi la bénédiction? Genèse 12, 1 à 4, Dieu avait dit à Abraham, il dit, « L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. » Connaissez-vous des Juifs qui sont bénis financièrement? Ils ont la réputation, c'est pour ça que des fois les gens ne les aiment pas. « Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. » Non seulement vous allez être bénis, mais vous allez devenir une source de bénédiction. Donc, c'est vous autres. Dieu vous bénit, puis là, vous bénissez. Vous bénissez comme ça parce que vous êtes connecté avec la source. Vous devenez une source de bénédiction. Verset 3, « Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. » C'est pour ça que vous ne voulez jamais parler contre un juif. Vous parlez contre un juif, qu'est-ce que vous faites? Vous vous attirez la malédiction sur vos vies. Au contraire, vous bénissez les juifs et vous priez qu'ils puissent connaître Jésus Sauveur. C'est ça qu'on doit faire. Mais ça dit ici, « Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. » Pareillement pour vous, ça c'est votre héritage. « Ceux qui me bénissent sont bénis, ceux qui me maudissent sont maudits. » Bénissez-moi. Hein? Soyez bénis, Joël. Soyez bénis, Joël. Soyez tous bénis. Bénis. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Hey, est-ce que c'est orgueilleux de dire ça? Vous savez, des fois, on peut prendre des promesses comme ça, là, puis toutes les saisir, les croire, les décréter. Puis là, les gens vont dire, écoute donc, est donc orgueilleux de croire tout ça. Mais je fais juste croire qu'est-ce que Dieu a dit. C'est ça que Dieu dit à mon sujet. Et là, ça dit, Abraham 4, Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Alors, on voit qu'Abraham, il a obéi, même s'il ne savait pas où c'est qu'il s'en allait, il a décidé de suivre la voie de Dieu pour sa vie. Il a écouté, puis il a été béni. Et Genèse 22, verset 17, ça dit « Je te bénirai », ça c'est Dieu encore qui parle à Abraham, « Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. » La postérité, ça nous parle de Jésus-Christ qui possédera la porte de ses ennemis. Puis dans l'Apocalypse 1, 18, ça dit, Jésus a dit, « Je suis le premier, le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Voyez, Jésus, là, il a tout racheté pour nous. C'est lui qui a toute autorité puis qui nous l'a donné à l'Église. Et la raison pourquoi Dieu veut nous bénir, là, c'est très important là, de comprendre ça, c'est parce que Dieu a besoin d'un peuple béni. Béni à tous les niveaux. Vous avez dit, c'est quoi ça être béni, Joël? Béni, c'est de transmettre la puissance de l'élargissement, de prospérer à tous les niveaux de la vie. Donc, c'est la puissance que Dieu vous transmet une puissance et c'est celle d'être capable d'élargir votre territoire. C'est ça la bénédiction. La bénédiction, ce n'est pas de l'argent. C'est bien plus que ça. La bénédiction qui repose sur nos vies, c'est être capable, c'est d'avoir reçu cette puissance divine pour être capable d'élargir et de prospérer à tous les niveaux. Sauf que ce n'est pas juste l'argent. Les gens n'ont pas compris. Ça a le rapport avec le corps physique. Dieu veut nous guérir complètement. Ça a le rapport avec notre portefeuille. Ça a le rapport avec notre sanité. Ça a le rapport avec tout ce que vous pouvez imaginer. Être béni, c'est d'avoir le shalom de Dieu, rien manquant, rien brisé dans vos vies. C'est ça que Dieu veut pour vous. Puis là, vous avez dit, ouais, mais Joël, c'est quoi la bénédiction en action? Et je termine ici, Proverbe 10, verset 22. Ça dit, c'est l'argent de l'Éternel qui enrichit? Non. Proverbe 10, 22, ça dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. La bénédiction de l'Éternel dans vos vies va vous enrichir et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Ésaïe 55, verset 2, ça dit, pourquoi dépensez-vous de votre argent pour payer ce qui nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour une nourriture qui ne rassasie pas? Écoutez, oui, écoutez-moi, alors vous mangerez ce qui est bon, vous vous délecterez d'aliments savoureux. OK? Donc, si on sert le Seigneur, on suit le Seigneur, que ça fasse du sens, que ça soit raisonnable ou non, quand on dit oui au Seigneur, on va pouvoir se délecter des aliments de Dieu. Amen. Puis dans Genèse 13, 2, ça dit « Abraham était riche en troupeaux, en argent, en or. » Si vous avez de la misère avec ça, lisez les personnages de la parole de Dieu, comment Dieu les bénit. Puis il y a une raison pour ça. Dieu a besoin d'un peuple béni. Il a besoin d'un peuple béni. L'ennemi a besoin d'un peuple maudit. Et pendant longtemps, l'Église de Jésus-Christ a opéré sous la malédiction, pas sous la bénédiction. Alors, on a des chrétiens qui sont tous maudits, qui marchent comme ça, sous la malédiction sur leur vie. Et là, Satan se réjouit parce que l'Église ne peut rien faire. On ne peut pas établir des studios d'enregistrement quand on est maudit. Mais quand on est béni, quand on s'est mis en position, on donne à Dieu ce qui lui appartient, on l'honore avec nos dîmes, nos offrandes. On fait premièrement juste la base, là, on ne le vole pas, en autre mot. Donc, on ne vole pas Dieu. On commence à bénir Dieu comme ça. Et par la suite, là, on met en opération toutes les autres choses que Dieu nous montre, là, toutes les choses que j'ai enseignées ce soir, rentrer dans le repos, tout ça. Là, on est béni. Et là, on voit la main de Dieu qui ouvre pour nous tous les obstacles qui sont là. Et cette parole ce soir-là, c'est une alliance perpétuelle, Genèse 17, verset 7. Ça dit, c'est irrévocable, dans Hébreux 6, verset 17. J'aurais d'autres versets, mais je ne veux pas trop vous tanner ce soir. Je sais que les chaises sont inconfortables. Mais par la foi, on va en avoir d'autres chaises. Et on les a déjà trouvées. On les a déjà trouvées, en plus. Gloire à Dieu. Alors, en tout cas, on a un bon Dieu qui veut nous bénir. Et c'est tellement encourageant parce que Dieu prépare des choses pour nous à Bromont. Et puis, prochainement, ne manquez pas une réunion. Si vous manquez une réunion, peut-être vous allez vous présenter à l'aéroport et on ne sera plus là. Vous allez dire, l'enlèvement a eu lieu? J'ai manqué ça? Non, manquez pas une réunion, parce que vous allez voir, on va vous le dire à l'avance. Au moins 2 semaines à l'avance, on va vous dire, OK, après une certaine date, on va être rendu à une telle place. Puis peut-être, on va même avoir besoin d'un coup de main pour la peinture, des choses comme ça. On ne sait jamais. Peut-être la place ne sera pas toute peinture à l'avance, mais nous, on croit dans la bénédiction tellement que même dans notre maison, quand on l'a achetée, était toute frais peint, les couleurs même qu'on avait dans notre autre maison. Mais ma femme veut qu'on les repeinture encore. Alléluia! Mais alléluia, mais on a eu quelques mois de grâce dans notre maison, parce que c'était quand même des belles couleurs. C'était très important, cette dernière note. J'ai le droit d'agacer ma femme. Amen. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Vous savez, on a un bon temps qui se prépare pour nous. On va manger ensemble, on va juste fraterniser un petit peu ensemble. Et puis, après, on va vous relâcher. Mais si vous ne pouvez pas rester avec nous, que Dieu vous bénisse. On va juste pencher nos têtes, on va prier ensemble, on va remettre ce temps à Dieu. Cette année de l'expansion, cette année, ce n'est pas juste pour nous, c'est pour vous. Alors, on va donner ça à Dieu. Seigneur, on veut te remercier, Seigneur, pour cette parole que tu nous as donnée. Comme quoi c'est le temps vraiment d'élargir notre tente. Et Seigneur, on reçoit cette parole en tant que congrégation. On la reçoit. Seigneur, on prie que tu puisses nous diriger par ton esprit à l'endroit parfait pour nous pour le moment. On sait que ça se peut, que ça va juste être temporaire en plus parce que tu vas continuer à nous faire grandir, à nous faire croître, Seigneur. Mais pour le moment, Seigneur, montre-nous c'est où l'endroit parfait pour nous. Seigneur Dieu, on prie que tu puisses ouvrir toutes les portes, Seigneur, que ce soit vraiment merveilleux qu'on puisse voir ta main à l'œuvre qui ouvre les portes pour nous. Puis on prie aussi que tu puisses sceller cette chose vraiment avec une conviction surnaturelle qu'on est certain que c'est la bonne place, Seigneur Dieu, qu'il n'y aura même pas une question de doute. Je te prie, Seigneur, pour chaque personne qui est ici, pour cette année 2009 qui se dresse devant nous, Seigneur, on réclame la bénédiction sur chaque tête qui est ici. Chaque personne qui veut s'approcher de toi, Seigneur, on prie qu'ils puissent entrer dans tes parvis en 2009. Seigneur Dieu, on prie qu'ils puissent goûter à ta bénédiction dans leur vie. Seigneur, on prie qu'ils puissent entrer dans ce repos, Seigneur, qu'ils vont mettre de côté les œuvres mortes, Seigneur, mais qu'ils vont entrer puis ils vont faire les œuvres que toi, Seigneur, tu les appelles à faire. Seigneur, on prie aussi que les gens, chaque personne ici, puisse être fidèle, Seigneur, à servir leur maître, qu'ils puissent être à l'écoute et voir aussi, qu'ils puissent avoir la vision pour le nuage, la nuée, Seigneur, qui les conduit, qui puisse rechercher ta présence premièrement, Seigneur Dieu. Oh, merci, Seigneur, pour cette année de consécration aussi. Cette année où on s'approche de toi davantage, où on met de côté les choses qui ne sont pas de toi et les choses même qui nous vont perdre notre temps, Seigneur. C'est une année d'avancement, Seigneur Dieu, et on réclame ça sur chaque personne ici, qu'ils soient bénis, 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 on décrète le shalom de Dieu sur eux ce soir. Rien manquant, rien brisé dans leur vie. Merci Seigneur pour ton onction de guérison aussi. Pour ceux qui sont malades dans leur corps, Seigneur, on prie qu'ils quittent cette place ce soir, guéris, rencontrés de ta part, Seigneur Dieu. On veut te remercier aussi pour ceux qui sont liés avec toutes sortes de problèmes. On te remercie, Seigneur, que Jésus est venu pour nous affranchir. Et dans ta parole, Seigneur, tu dis, on va connaître ta vérité et on va être affranchis. Alors, on décrète ça ce soir aussi. La liberté sur chaque personne. Oh, merci Seigneur pour ce que tu t'apprêtes à faire ici à travers nous. Merci pour la gloire qui s'en vient ici à Bromont. Merci Seigneur que les gens vont entendre parler de la gloire, la visitation de Dieu ici à Bromont. Merci Seigneur Dieu que ton nom va être élevé et c'est toi, on va entendre plus parler de toi que le ski Bromont. Merci Seigneur parce que c'est le nom de Jésus qui est élevé dans cette ville. Et on dit à toutes les principautés de l'enfer, on s'en va pas d'ici, on est ici pour y rester. Merci Seigneur Dieu que tu nous donnes cette ville. Merci Seigneur Dieu pour ce que tu fais ici à Bromont. On a prié au nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Amen. Gloire à Dieu.
Merci d'avoir écouté ce message de victoire. Nous espérons qu'il a été une bénédiction pour votre vie spirituelle. Pour de plus amples informations sur le pasteur Joel Spinks ou encore sur l'Église de la Victoire du Québec, visitez le www.evqmedia.com. L'Église de la Victoire du Québec, pour l'amour de la francophonie.